Voilà, nous terminons aujourd'hui notre mini-série de prédications sur la thématique de l'Église pour alimenter un petit peu notre réflexion sur l'avenir de notre Église. Et pour terminer, rien de tel que de lire un passage tiré du dernier livre de la Bible, de l'Apocalypse, et nous allons lire ensemble au chapitre 21 de l'Apocalypse, les versets 9 à 27. Apocalypse 21, versets 9 à 27. Un ange me dit, viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des Israélites. À l'est, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations. Elle portait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille 144 coudées, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysopase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu le Tout-Puissant est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour. Or là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Voilà une vision grandiose pour terminer l'Apocalypse et pour terminer notre réflexion, notre série de méditations sur l'Église. Avec quand même un étonnement quand on commence ce récit. Puisqu'un ange dit à Jean, l'auteur de l'Apocalypse, qu'il va lui montrer une mariée. Et évidemment, on s'attend à voir arriver une femme en robe de mariée. Et ce qui apparaît, c'est une ville. Viens, je vais te montrer la mariée. Et c'est une ville qui apparaît. Évidemment, on est ici dans une vision symbolique. On le voit dans la description détaillée de cette ville, de cette nouvelle Jérusalem, ses proportions parfaites, la forme d'un cube, ses matériaux précieux, l'or, les pierres précieuses, l'éclat de la gloire de Dieu qui se manifeste à travers ces matériaux précieux, et puis surtout l'omniprésence du nombre 12, le nombre du peuple de Dieu, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. Il y a 12 portes, il y a 12 fondations, avec le nom des 12 apôtres sur chacune des 12 fondations. Elle mesure 12 000 stades de long, et la muraille fait 144 coudées, et vous savez qu'en calcul mental, 144, c'est 12 fois 12. On a donc là une vision symbolique du peuple de Dieu. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu, sinon l'Église ? On est face, dans cette vision, on est face à la perspective ultime de l'Église. C'est l'Église de la gloire, celle de la nouvelle création, celle de la résurrection, celle du salut pleinement acquis. C'est, pour utiliser l'expression de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, c'est cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est cette nouvelle Jérusalem. Mais voilà, l'Église aujourd'hui, l'Église en général, je ne parle pas seulement de la nôtre, l'Église aujourd'hui est sans doute encore fort éloignée de cette Église parfaite, idéale, glorieuse, telle qu'elle nous est décrite symboliquement dans ce texte. Alors sans jamais atteindre cette perfection ici-bas, ne faisons pas d'illusions, ne faut-il pas quand même considérer comme un idéal à poursuivre, comme un modèle parfait d'Église, cette vision de la Nouvelle Jérusalem. Et je relèverai en particulier trois choses, trois éléments qui peuvent, je crois, nous enseigner quelques repères, nous donner quelques repères importants pour nous aujourd'hui. La première chose, c'est qu'elle descend du ciel. Il vit une ville descendre du ciel. Ce qui descend du ciel vient de Dieu. Symboliquement, c'est une façon de dire que cette nouvelle Jérusalem, c'est l'œuvre de Dieu. Au début de la Genèse, au tout début de la Bible, Dieu a planté un jardin en Éden. Ici, il fait descendre une ville sur terre. Dans le jardin et dans la ville, on retrouve le même arbre. Alors, c'est un peu plus loin dans l'Apocalypse, c'est le chapitre suivant, le chapitre 22. Il y a l'arbre de la vie qui est au cœur du jardin d'Éden, que l'on retrouve au milieu de la ville, décrite ici dans l'Apocalypse. La boucle est bouclée. Cet arbre de vie est de retour. Mais ce n'est pas simplement un retour au paradis originel, on rembobine la cassette et on recommence. Non, c'est quelque chose de nouveau. On n'est plus dans un jardin, on est dans une ville. Or, la ville dans la Bible, c'est l'œuvre des hommes. Ce sont les hommes qui construisent des villes. Et même souvent dans la Bible, avec une connotation négative. La première ville construite dans la Genèse, c'est Caïn qui l'a construit comme un affront devant Dieu. Lui qui devait être errant, va s'arrêter, construire une ville et donner le nom de son fils à cette ville. Et un peu plus loin, la ville suivante dont on parle, c'est Babel, qui construisent une tour pour monter jusqu'à Dieu et montrer qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et un peu plus loin dans la Genèse, la ville suivante dont on parle, c'est Sodome. Sodome et Gomorre, les villes de la rébellion contre Dieu. Et puis on enchaîne, et après il y a la figure de Babylone qui traverse tout l'Ancien Testament. Enfin bref, la ville en général dans la Bible, c'est pas très positif. Mais ici, la ville dont il est question, elle descend du ciel. Alors que la ville, c'est l'œuvre des hommes, la Nouvelle Jérusalem est une ville qui est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui, dans son œuvre, a intégré l'histoire des hommes. Il ne fait pas descendre un nouveau jardin du ciel pour le poser sur terre. Il fait descendre une ville parce que c'est l'aboutissement de toute l'histoire de Dieu avec les hommes. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'humanité rachetée. Et nous pouvons trouver du coup ici, dans cette image de la ville qui descend du ciel, encore le même refrain que nous avons eu à chacune de nos prédications sur ce thème, nous rappelant que l'Église, c'est l'œuvre du Seigneur et pas la nôtre, mais qu'il n'y fera rien sans nous. C'est la même chose ici. Parce que si la Nouvelle Jérusalem descend du ciel, l'Église aujourd'hui ne tombe pas du ciel. Il faut que nous revêtions nos bleus de travail et que nous retroussions nos manches pour y être actifs, pour travailler sur le chantier de l'Église que Dieu construit. Ultimement, c'est vrai, l'Église, elle vient de Dieu, elle descend du ciel, c'est son œuvre. Mais c'est une ville intégrant ce que les hommes apportent, ce que les hommes, les êtres humains font. Parce que Dieu utilise dans son œuvre, y compris dans l'Église, il utilise notre créativité, il l'intègre dans son projet pour que l'Église soit à la fois son œuvre et celle de ceux qui la composent. C'est aussi notre œuvre dans le Seigneur. Notre Église, l'Église en général, mais notre Église aussi, est le fruit de l'œuvre de Dieu, mais elle sera aussi ce que nous en faisons. La deuxième remarque, à partir de cette vision, est peut-être l'élément qui prend le plus de place dans ce paragraphe, c'est la description détaillée de cette ville, avec énormément de détails. Et il y a un point commun dans tous ces détails, c'est que cette ville est faite de matériaux précieux, partout, de l'or pur, des diverses pierres précieuses, j'en connais pas la moitié moi, de toutes ces pierres précieuses, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, mais il y a une telle diversité, une telle abondance, une telle richesse de pierres précieuses, de matériaux précieux, que voilà, on en est vraiment impressionné, et qui reflète la gloire de Dieu, évidemment, l'éclat de la gloire de Dieu. Vous avez peut-être remarqué que ces pierres précieuses, on les a partout, même sur les fondations de la ville. 12 fondations ornées de pierres précieuses. Normalement, une fondation, les fondations de la ville, on ne les voit pas. C'est ce qui est caché, les fondations. Alors pourquoi mettre des pierres précieuses sur ce qu'on ne voit pas ? Ce qu'on demande à des fondations d'une ville, ou d'un bâtiment, ou de quoi que ce soit, c'est d'être solide. Eh bien, dans la Nouvelle Jérusalem, ça ne suffit pas d'être solide. Il faut en plus que ce soit beau et précieux. Rien n'est trop beau ou trop précieux pour la Nouvelle Jérusalem. Des pierres précieuses, il y en a partout. Jusque dans les fondations. Même là où on ne le voit pas. Rien n'est trop beau, rien n'est trop précieux pour la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que nous avons la même optique pour nos églises? Est-ce que nous nous disons aussi que rien n'est trop précieux pour elles? Évidemment, là, je ne parle pas spécifiquement des bâtiments en disant que ça manque de pierres précieuses quand même. Et ce serait bien d'avoir des chaises en or. On va racheter des chaises, on va les acheter en or. Bon, notre trésorier n'est pas là ce matin. Sinon, il aurait déjà bondi de sa chaise, probablement. Évidemment que ce n'est pas ça l'enjeu ici. Mais je parle ici des pierres vivantes que nous sommes. Ces pierres vivantes qui formons ensemble l'Église, là. Cité du Seigneur, les talents que nous pouvons mettre au service de la communauté, l'investissement que chacun nous pouvons y prendre, la qualité des relations que nous pouvons entretenir les uns avec les autres, l'assiduité que nous pouvons mettre dans la prière pour notre Église ou les uns pour les autres. Est-ce que dans tous ces domaines, est-ce qu'il n'y a rien de trop beau et de trop précieux pour notre Église? Est-ce que dans tous ces domaines, nous donnons le meilleur de nous-mêmes? Alors que j'ai l'impression que souvent, dans les Églises en général, on se contente parfois de bricoler avec les moyens du bord, et la Nouvelle Jérusalem, elle, est faite des matériaux les plus précieux. On se dit, c'est pas grave, hein, c'est juste pour l'Église. Donc on est sincère, ça suffit. Ben non, l'exemple de la Nouvelle Jérusalem nous invite, a donné le meilleur. Même quand ça ne se voit pas. Même dans les fondations. Parce que bon, les portes, on les voit, hein, il y en a 12, sont faites de perles uniques et sont magnifiques. Mais même les fondations de la Nouvelle Jérusalem, elles sont ornées de pierres précieuses. Est-ce que nous sommes prêts à donner le meilleur pour l'Église, même quand ça ne se voit pas? Même pour des fondations qui ont besoin d'être là, et qui sont peut-être un travail discret, secret, dans l'ombre, mais tout aussi important que les portes, que les murailles de la Nouvelle Jérusalem. Même si évidemment cela concerne plus les intentions, les motivations, l'implication que nous pouvons y mettre, plus que la perfection formelle, on va dire, cette vision de la Nouvelle Jérusalem nous invite à viser la qualité, la beauté, l'excellence dans le service que nous voulons rendre les uns aux autres et au Seigneur dans l'Église. Rien n'est trop beau pour la Nouvelle Jérusalem. Et la troisième remarque vient du dernier paragraphe de ce passage qui manifeste la présence de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce dernier paragraphe, on souligne qu'il manque quelque chose dans la ville. Il y a quelque chose qui n'est pas là et qui devrait être là, surtout quand on parle de Jérusalem. Il n'y a pas de temple. Avec le temple était à Jérusalem, mais là, il n'y en a pas. Je n'y vis pas de temple, pas de sanctuaire. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est un manque qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de temple puisque Dieu lui-même est là, puisqu'il est lui-même le temple, le sanctuaire de la ville. Dieu est là. Quand on regarde bien ce qui est dit dans ce dernier paragraphe, Dieu est là. Les gens voient que Dieu est là et ils viennent. Dieu est là, sa lumière éclaire la ville. Les gens voient que Dieu est là et ils viennent. Les nations et leurs rois accourent et viennent à cette ville, à cette nouvelle Jérusalem. Parce que Dieu est là et qu'il n'y a pas besoin d'un temple pour dire qu'il est là. C'était une des significations du temple hein, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, de manifester, de signifier la présence de Dieu. Il n'y a plus besoin de quelque chose, d'un signe extérieur, puisque Dieu est là, effectivement, dans la Nouvelle Jérusalem. Pas besoin d'artifice, pas besoin de manifestation extérieure particulière pour le voir, il est là. La gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe, c'est l'agneau. Si seulement on pouvait dire ça de nous. La gloire de Dieu nous éclaire et notre lampe, c'est l'agneau. Si le Seigneur est la lumière de notre vie, sa présence se verra. Elle se manifestera. Si notre lampe, chacun personnellement, ou ensemble en tant qu'Église, c'est l'agneau, c'est le Fils de Dieu, alors sa lumière, sa présence se verra et se manifestera. Et comme dans l'Apocalypse, les gens verront que Dieu est là et ils viendront. Dans cette vision, sont les nations et les rois qui viennent apporter leur gloire, leur honneur à Dieu en venant dans la ville, attirés par la lumière qui y rayonne. Il y a comme vocation à l'Église, à toute Église, un pouvoir d'attraction qui réside dans la manifestation de la présence de Dieu, de sa gloire, de son amour, de sa fidélité. Ce pouvoir d'attraction qui s'exerce dans la Nouvelle Jérusalem est appelé à s'exercer aussi au milieu de nous. Encore faut-il garder toujours les portes ouvertes, comme ici, vous avez vu? On nous dit, précise que les portes restent ouvertes toute la journée. Et comme il n'y a pas de nuit, c'est ce qu'on le dit aussi, elles ne se ferment jamais. Les nations peuvent accourir dans la Nouvelle Jérusalem parce que les portes sont toujours ouvertes. Laissons aussi toujours ouvertes les portes de notre Église. Peut-être pas en hiver quand il fait froid, mais évidemment je ne parle pas des portes du matériel, mais en gardant un esprit ouvert sur le monde, sur sa culture, sur ses préoccupations, sur ses besoins, sur ses attentes. En ayant les portes ouvertes, la lumière peut rayonner et les gens qui sont attirés par la lumière peuvent entrer. Alors que peut-être, parfois, nous pouvons mettre nous-mêmes, sans nous en rendre compte, des obstacles, garder des portes fermées par un décalage trop grand, par un langage incompréhensible, par des préoccupations complètement différentes de celles des gens qui nous entourent. Nous fermons les portes et nous empêchons la lumière de Dieu de rayonner à l'extérieur et d'attirer ceux qui la recherchent. Alors voilà cette vision de la Nouvelle Jérusalem qui peut, je crois, inspirer notre vision de l'Église, de notre Église pour aujourd'hui. Il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Notre Église, ni n'importe quelle Église, ne sera jamais le paradis sur terre, une cité aussi glorieuse et flamboyante que la Nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse. Celle-là, il faudra que Dieu la fasse descendre du ciel. Il n'y aura pas d'autre moyen. Mais nous pouvons garder cette ville dans notre horizon, comme un modèle parfait duquel nous pouvons nous inspirer, pour comprendre que Dieu intègre nos efforts, notre travail, notre créativité dans son œuvre, pour apporter les meilleurs matériaux, les plus précieux, donner le meilleur de nous-mêmes, même quand ça ne se voit pas, et pour avoir l'ambition d'être une église où Dieu se manifeste et dans laquelle les portes restent toujours ouvertes sur le monde. Alors sans être la glorieuse Nouvelle Jérusalem, nous pourrons au moins être une communauté humble dans laquelle Dieu pourra se manifester et où il pourra poursuivre son œuvre. C'est déjà pas mal. Amen.